Bien, ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu ensemble. C'est un privilège qui nous est donné. Alors, profitons au maximum tant que nous en avons l'occasion de ce privilège. Peut-être vous vous êtes déjà dit dans votre vie, et par rapport aux prières qui ne sont pas toujours exaucées, par rapport à nos désirs, à nos frustrations, et Dieu sait si nous en avons tout au long de notre vie. Vous avez peut-être déjà pensé, ou vous avez dit, ou j'ai dit, parce que ça je l'ai déjà dit, Dieu m'a oublié. Dieu ne se souvient pas de moi. Et pourtant, je le prie, je l'implore. Mais Dieu m'oublie. Dieu est-il encore là ? Dort-il ? Comme Élie disait au prophète de Baal, il est parti en voyage, votre Dieu. Il dort, et parfois peut-être avons-nous déjà dit, est-ce qu'il n'est pas en voyage parce que je ne vois rien, j'ai l'impression qu'il m'oublie. Et dans la parole de Dieu, nous voyons des personnes qui ont cru être oubliées, qui se sont senties oubliées, comme nous. Nous pouvons nous sentir oubliés. Cette petite anecdote, si vous vous souvenez de Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité, qui est morte à 122 ans, elle avait dit un jour, « Dieu m'a oublié. » Vous vous rendez compte, dans les milliards de gens, dans sa liste, il avait oublié Jeanne Calment. Puis il s'est dit, « Oh, elle est toujours là, elle, hop. » Mais non, Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu n'oublie personne. Mais parfois, on a cette impression-là parce que nous passons dans notre vie des moments difficiles qui nous font croire que Dieu nous oublie, que Dieu ne se souvient plus de nous, que Dieu a rejeté ou mis de côté nos prières dans un coin perdu de son ordinateur et voilà, il y a eu un bug et il nous a oubliés. Je voudrais vous parler d'une personne qui se sentit oublié, mal aimé aussi, dans la parole de Dieu. Et cette femme, c'est une femme, Rachel, la femme de Jacob. La préférée de Jacob, c'est celle qu'il aimait, Jacob. Nous allons lire deux versets dans le chapitre 30 de la Genèse. Je vais lire dans la version du Semeur, chapitre 30. Versets 1 et 2, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur et elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. » Jacob se fâcha contre elle, « Est-ce que je suis à la place de Dieu, celui qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Petit historique de la famille de Jacob. Jacob est en fuite. Parce que Jacob était un monsieur pas très recommandable, si vous connaissez son histoire, un trompeur, il était rusé comme pas deux, et il s'enfuit loin de sa famille parce que son frère Ésaü voulait le tuer, parce qu'il l'a trompé, il lui a volé son droit d'aînesse, il lui a volé la bénédiction, et il s'enfuit loin de Dieu, quelque part, et là, il va chez son oncle Laban, sous le conseil de Rebecca, sa maman, et là, il tombe amoureux d'une fille qui s'appelle Rachel. Il en fait part à son oncle et lui dit, « Écoute, je veux bien te la donner, mais tu dois travailler 7 ans pour moi, et puis je te donnerai ma fille. » Heureusement que c'est plus comme ça, vous rendez compte ce qu'on aurait dû faire, hein. Et après cette année, eh bien, son oncle est aussi rusé que lui, il le trompe et il lui donne, « Non, je vais te donner Léa, c'est pas Rachel que tu auras. » Et tu travailleras encore 7 ans pour Rachel. Et tellement il aimait ces années-là passer comme une fleur. Et puis voilà, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, mais il n'a pas eu d'enfants avec Rachel. Rachel semblait être stérile et voilà, la cause de sa jalousie, de sa souffrance, Et Rachel se sent oubliée par Dieu, oubliée par son mari. Ne comprenant pas sa souffrance, Jacob ne comprenait pas que sa femme pouvait souffrir ainsi. Lui, ça ne le tracassait pas, il avait déjà des enfants, et pas un petit peu. Et comme elle voyait que sa sœur avait plusieurs enfants, tandis qu'elle était stérile, elle se sentait mal, elle se sentait incomprise. Mais peut-être que nous pouvons vivre une situation semblable dans notre vie. Incompris, oublié peut-être par Dieu, soi-disant, incompris par les autres, incompris par notre conjoint, incompris par nos enfants, par notre famille, incompris par nos frères et sœurs dans la foi, se sentir quelque part oublié par Dieu, que nous pourrions peut-être l'accuser de négligence de sa part envers nous, quand nous considérons notre situation. La situation de Rachel, un couple sans enfants, nous l'avons vécu, mon épouse et moi. Nous avons prié pour avoir des enfants et ils ne venaient pas. Nous avons attendu 8 ans pour avoir notre premier enfant. Et quand on prie et qu'on voit consulter des médecins et tout ça, et qu'on voudrait être parent et tout ça, et qu'on voit les autres qui ont des enfants, et quand on se rencontrait entre amis, ben, ils parlaient des enfants et nous, on était là comme... comme on dit à Liège, comme deux grosses biesses. Eh bien oui, on ne savait pas, que voulez-vous qu'on dise, puisqu'on ne savait pas partager non plus nos joies de la paternité, de la maternité. Et quelque part, on se sentit aussi comme Rachel, oublié par Dieu, rempli d'aigreur aussi, parce que c'était une souffrance pour notre couple. Et on peut se sentir comme Rachel, oublié. Croire qu'on est oublié par Dieu, se sentir méprisé parfois par son entourage, c'est ce que Rachel vivait. Et nous pouvons, pour beaucoup de raisons, vivre dans l'abattement, perdre notre joie, perdre notre paix, qui disparaît subitement. Nous vivons dans la souffrance, notre joie de vivre disparaît. Et nous perdons aussi ce désir d'avoir un contact avec Dieu. Quelque part, nous lui en voulons. Le fautif, c'est lui. Pourquoi me conduit-il dans cette situation difficile? Pourquoi moi? Et cette petite voix nous disant, mais tu n'es pas assez comme il faut pour que Dieu te réponde. Vous savez, je vous dis franchement, nous sommes restés quelques années sans enfants et certains chrétiens ont dit pour nous c'était une punition de Dieu que nous n'avions pas d'enfants. Alors quand on entend ça, ça fait encore plus mal parce que ça vient de la part d'enfants de Dieu et des gens qui ont des responsabilités. Donc parfois c'est nous qui pensons que nous ne sommes pas bien et d'autres pensent que nous ne sommes pas bien. Nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, de juger. Chacun de nous qui passons peut-être par des moments difficiles, nous n'avons pas droit de prononcer des paroles ni des jugements, des paroles dures. Tout comme Jacob a été très dur envers sa femme. Tout comme Jacob, il n'a pas pu maîtriser son vocabulaire. Il ne comprenait pas Rachel qui souffrait. Et cela fait mal d'entendre ça. Et toujours pas de réponse de la part de Dieu à notre souffrance. Frères et sœurs, la souffrance peut être pour nous difficile, terrible, insoutenable parfois, car nous traversons des moments d'incompréhension. Mais à nous de réagir positivement dans des conditions pareilles. Nous avons besoin aussi de nous souvenir des bontés de l'Éternel quand nous passons par des moments de difficulté, d'incompréhension. Jonas disait... au chapitre 2, verset 8 de Jonas, « Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. » Souvenons-nous, quand nous sommes abattus, des moments où nous avons reçu les bénédictions de Dieu. Souvenons-nous des bénédictions de Dieu. Ne demeurons pas dans cet état de tristesse. Ne restons pas dans la défaite, relevons la tête malgré nos larmes et nos souffrances que nous pouvons avoir. Nous avons tendance à oublier Dieu. Ce n'est pas lui qui nous a oubliés, c'est nous qui l'oublions des fois. Lui, il veille sur nous. Et cela, peut-être, nous l'oublions trop souvent. Le psaume 32, au verset 8, nous dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. » Quand nous passons par la souffrance, recherchons l'instruction de Dieu. C'est la première chose que nous devons faire, c'est rechercher le conseil de Dieu, savoir pourquoi nous passons par ce moment difficile. Recevons ces instructions quand nous sommes dans la difficulté. Chercher l'instruction de Dieu, mais où la chercher? Mais tout simplement dans sa parole. Pourquoi réagissons-nous mal? Pourquoi sommes-nous de mauvaise humeur? Pourquoi sommes-nous grincheux, révoltés, accusant Dieu de nos déboires? Dieu veut nous conduire. Cherchons en lui instruction et conseil, frères et sœurs. Mais nous ne pouvons trouver cela que dans sa parole et dans la prière. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a qu'une seule façon de se mettre devant la face de Dieu et recevoir son instruction. Quand nous voyons la façon d'agir de Rachel, elle cherche une bénédiction par procuration. Voyant qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, elle offre sa servante à son mari comme femme, dit « Prends ma servante comme femme et ayez des enfants ensemble. Ce sera un peu mes enfants. » Ça nous rappelle une autre histoire, toujours dans la même famille, Sarah. N'ayant pas d'enfant, elle dit « Prends ma servante. » Et nous voyons le problème que ça a créé. Et là encore, Rachel commet les mêmes erreurs que Sarah. « Prends ma servante et tu auras deux enfants avec. » Elle aura en quelque sorte des enfants adoptifs, mais elle ne sera jamais leur mère. Soyons attentifs, frères et sœurs, à notre façon de trouver des solutions à nos problèmes. Ce n'est pas la façon dont Dieu veut agir en notre faveur quand nous voulons arranger les bidons à notre façon pour trouver des solutions quand nous traversons l'épreuve. Et nous disons « Oh, Dieu m'a quand même béni ». Disons que Dieu, parfois, doit faire avec les mauvaises décisions que nous avons prises. Il doit, après, notre Dieu, réparer les pots cassés, arranger les bidons, parce que nous n'avons pas été dans les plans de Dieu. Quand nous voyons ce qui s'est passé entre Agar et Sarah, ce n'était pas le plan de Dieu que Abraham ait un enfant avec Agar. Et Dieu a dû réparer ce qui était cassé, réparer les erreurs des hommes. Frères et sœurs, ne prenons jamais de décision hâtive quand Dieu tarde à nous répondre. Attendons le temps de Dieu, la volonté de Dieu, car nous allons droit dans le mur si nous commettons des erreurs. Quand nous voulons aller plus vite que le pas de Dieu, nous nous cassons la figure. Et la vie continue pour Rachel. Et je ne vous dis pas l'ambiance, hein. Elle n'est pas meilleure, malgré que elle a deux enfants par procuration. Que voulez-vous? Un ménage à cinq, quatre femmes et un homme. C'est terrible, tout le monde, tous les hommes font les yeux en l'air, je ne sais pas vous, mesdames, mais c'est terrible. Vous savez, maintenant, quand la parole de Dieu dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, j'ai vu une émission, il n'y a pas longtemps, sur France 2, on appelle ça le trouple. C'est vivre à trois, soit un homme avec deux femmes ou une femme avec deux hommes. Tout le monde se mélange, tout le monde fait des enfants. Enfin, c'est incroyable. Donc, quelque part, nous n'avons rien inventé. Et à ce moment-là, le pauvre Jacob avait quatre femmes. Ça ne devait pas... L'ambiance à table, ça devait être quelque chose. Surtout que les deux sœurs, en plus, ne s'arrangeaient pas trop bien. Léa et Rachel. Donc, voyez-vous, le pauvre Jacob s'arrachant les cheveux, je ne sais pas s'il en avait encore, mais ça devait être terrible. Voilà comment cela se passe quand on ne vit pas toujours dans le plan de Dieu. Quand on pense que Dieu nous a oubliés et qu'on fait nos arrangements à notre façon pour recevoir un peu de bénédiction. Mais plus loin dans l'histoire, il est dit ceci, Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel. Il exauça et lui permit d'avoir des enfants. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé ma honte, et elle l'appela Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dieu se souvint de Rachel. Rachel, tu n'étais pas oubliée. Elle a cru être oubliée. Dieu avait un plan pour cette femme, peut-être pour qu'elle comprenne certaines choses. Et si nous sommes dans la même situation que Rachel, Dieu ne nous a pas oubliés. Il y a le temps de Dieu. Il veut éprouver notre foi. Il veut éprouver notre confiance en lui. Frères et sœurs, ce matin, si tu dis « je suis oublié de Dieu », moi je te dis non. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se souvient toujours de toi. Quoi qu'on fasse, même si tu passes en ce moment par l'épreuve ou la difficulté, Dieu veille sur toi. Il te voit. Il te regarde. Il prend soin de toi. Il te porte dans ses bras. Il te console. Il est là pour te bénir, pour calmer ta souffrance. Dieu exauce Rachel. Elle peut donner la vie. Elle donnera donc naissance à Joseph. Ce nom signifie que Dieu ajoute. Et par ce fils, Dieu ajoutera des bénédictions à cette famille. Dieu va utiliser ce fils. Dieu va utiliser Joseph, cet enfant tant attendu. Cet enfant deviendra grand, vous connaissez tous son histoire, et comment Dieu l'a utilisé pour bénir sa famille, pour ramener cette famille ensemble, pour refaire l'unité de la famille. Dieu a utilisé cet homme. Et il les a sauvés de la famine, nous le savons tous. Joseph sera une bénédiction pour eux tous. Ça valait vraiment la peine d'attendre, Rachel, car la bénédiction vient sur ta famille grâce à toi, grâce à cette vie que tu as donnée en mettant au monde Joseph. Elle dira, Dieu a enlevé ma honte, la honte d'être stérile, car la stérilité était considérée honteuse à l'époque. Le temps a bien changé, évidemment, mais à ce moment-là, c'était une honte. Dieu veut enlever notre honte. Si nous sommes honteux, frères et sœurs, si pour toi, tu vis dans la honte parce que le Seigneur n'a pas répondu à ta prière, si tu te sens stérile dans ta vie spirituelle et tu considères cela comme une tare sur ta vie, Dieu veut enlever cette honte. Sache qu'aujourd'hui, par la foi, tu peux être libéré de la honte. Dieu veut faire couler la bénédiction sur chacun d'entre nous. Dieu est puissant afin de répondre à notre besoin. Il veut bénir ses enfants. Il veut les rendre féconds et non stériles. Soyons libérés au nom de Jésus, frères et sœurs, de la honte qui souvent nous paralyse, qui paralyse notre vie spirituelle. Nous sommes bloqués, nous n'avançons pas, car nous restons sur nos échecs. Nous restons sur nos échecs et nous sommes bloqués. Nous n'arrivons pas à nous dire, Dieu a un temps pour toutes choses. Il peut répondre quand on jugera bon de le faire. Mais plutôt, nous l'accusons de négligence. Ne forçons pas le temps de Dieu, frères et sœurs, comme beaucoup l'ont fait, et cela pour leur malheur. Dieu sait mieux que personne quand il doit répondre à nos prières. Et la bénédiction pour Rachel continuera. Elle dira que l'Éternel m'ajoute un fils, chose qui lui sera accordée, car elle enfantera encore Benjamin. Nous avons encore d'autres exemples dans la parole de Dieu, où des femmes étant stériles ont eu des enfants. Dieu a répondu pour elles. Nous voyons la maman de Samson, nous voyons Élisabeth. Et nous avons une autre femme que nous allons voir brièvement, Anne, la maman de Samuel, 1 Samuel chapitre 1er, verset 10, cette femme est en train de prier, Anne est en train de prier, elle a l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant, « Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Son désir de maternité est fort, car là aussi, elle a un mari et une rivale, parce que lui aussi, il n'a pas qu'une femme, il a une deuxième femme. C'était la mode à l'époque. Et cette femme, sa rivale, avait des enfants. Et cette femme se moquait, mortifiait Anne. Elle souffrait de ce que sa rivale avait des enfants et elle pas. Et remarquons la prière de Anne. Si Dieu lui répond, elle offrira cet enfant à Dieu. Elle offrira la bénédiction qu'elle va recevoir, elle l'offrira à Dieu. Pour quelle raison voulons-nous être bénis? Pour quelle raison prions-nous? Pour satisfaire, pour notre satisfaction personnelle? Ou afin de glorifier Dieu pour son action bénissante? Anne dira, la gloire est pour toi. Mon Dieu, je mets à ta disposition ce que tu me donnes. Quand Dieu répond, quand Dieu agit, la gloire doit revenir à lui. C'est lui qui bénit, c'est lui qui enrichit le peuple de Dieu. Et plus loin, on dira, il est écrit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Dieu répond à Anne aussi, et l'enfant qu'elle offrira à Dieu pour son service deviendra un des plus grands prophètes et un des plus grands juges d'Israël. Quelle bénédiction repose sur Samuel. Quand on fait confiance à Dieu et que nous restons dans son plan, frères et sœurs, la bénédiction ne peut que s'amplifier et déborder. Et la bénédiction ne déborde, ne s'arrête pas pour Anne, car nous voyons dans le chapitre 2 de Samuel, lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte, elle eut 3 fils et 2 filles. Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. D'autres enfants s'ajouteront, encore 5 enfants. Nous entrons dans le plan, quand nous entrons dans le plan de Dieu et que nous laissons Dieu agir, la bénédiction ne peut que retomber sur nous, frères et sœurs. Mais nous devons laisser agir notre Dieu selon sa volonté. Nous ne devons pas interférer dans son plan. Malheureusement, on veut toujours donner un coup de main à Dieu, quand ça ne va pas vite assez. Et là, on se casse la figure. Dieu a béni ces femmes qui ont fait confiance en Dieu. La bénédiction a porté beaucoup de fruits. Et nous-mêmes, nous devons faire confiance à notre Dieu, car il se souvient de nos prières. Elles sont dans une coupe. Apocalypse, chapitre 5, verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'eau remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Voilà où sont nos prières. Voilà où sont aussi nos prières qui ne sont pas encore exaucées. Elles sont dans une coupe d'or. Oui, si ce matin nous sommes devant Dieu et nous nous disons « Cette prière-là est oubliée. » Non. Cette prière-là, ta prière, notre prière, se trouve dans une coupe d'or. Et Dieu se souviendra de notre prière en son temps. Et je peux dire que Dieu se souvient de nous. Dieu s'est souvenu de nous, de mon épouse et de moi, dans notre couple, à ce niveau-là. Dieu nous a accordé ce que nous demandions, et dans d'autres cas aussi, Dieu est venu nous bénir. Et je pense que chacun de nous pourra témoigner ce matin, Dieu a répondu tel et tellement à certaines de mes prières et Dieu m'a béni. Je croyais que Dieu ne se souvenait plus de moi, qu'il m'avait oublié, mais non. Dieu s'est souvenu de moi en son temps. » Dieu répond, et la bénédiction coule, et elle inonde notre être desséché. Dieu n'oublie personne. Comme il est dit, elles sont dans des coupes d'or. L'or qui est la signification de la pureté, il purifie notre être afin que nous puissions recevoir sa bénédiction. J'ai lu quelque part ce texte que je veux vous repasser. L'expression « Dieu se souviendra de toi » ne veut pas dire que Dieu t'avait oublié. Non, Dieu n'oublie personne. C'est une expression biblique pour dire que Dieu te mettra à la une et fera de toi un centre d'intérêt et d'attention publique. Lorsque Dieu se souvient de toi, tout le monde parle de ce que Dieu fait pour toi. Dieu se souvient de chacun d'entre nous. Ce matin, si nous nous sentons oubliés, eh bien, nous nous trompons. Dieu n'oublie personne. Dieu se souvient de nous au temps voulu. Et cela, ne l'oublions pas. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es là, à nos côtés. Tu prends soin de nous. Tu ne nous oublies jamais. Malheureusement, c'est nous qui t'oublions, qui oublions tes promesses. Mais toi, tu demeures le même. Seigneur, toi, mes frères et sœurs, tu connais leur situation, tu connais peut-être leur tristesse parce qu'ils se sentent oubliés, parce que tu n'as pas répondu à quelque chose qu'il te demandait. Seigneur, que nous puissions attendre ton temps afin de recevoir ta bénédiction. Merci notre Dieu pour ton amour. Amen.